La santé de la mère ou de l'enfant demeure aujourd'hui encore l'un des principaux indicateurs de développement d'un pays. Et au Mali, les chiffres rappellent l'urgence. Malgré les avancées, la mortalité infantile reste élevée. Selon les dernières enquêtes démographiques et de santé 2023-2024, le taux de mortalité infantile atteint 52 décès pour 1000 naissances vivantes, dont 29 décès rien qu'au cours des premiers mois de vie. Pour comprendre les causes, les défis, mais aussi les solutions, nous avons rencontré des professionnels de la santé, des sociologues ainsi que des parents qui vivent ces réalités au quotidien. Nous commençons avec Dr Inki Keita, chef du département santé mère-enfant à l'Office national de la santé de la reproduction, ONACR.
Bonjour ici.
Ça va bien.
Dr Keita détaille ici les multiples facteurs. Insuffisance d'infrastructures conformes aux normes, manque de personnel qualifié, répartition inégale des services de santé, insécurité entravant les déplacements, dégradation environnementale, sans oublier le poids des pratiques socio-culturelles sur l'alimentation et les premiers soins du bébé.
Quand on parle du taux de mortalité infantile, il y a deux aspects. La mortalité de 0 à 28 jours, on appelle ça le taux de mortalité non-natale. Néonatale au Mali, ce taux est de 29 pour 1000 naissances vivantes. Les facteurs qui expliquent les décès au niveau des enfants sont nombreux. On peut citer entre autres pratiquement l'insuffisance des infrastructures au Mali et ces infrastructures, quand elles existent, elles ne répondent pas aux normes. L'insuffisance également du personnel qualifié pour faire l'accouchement comme cause de décès, l'hypoxie au cours de l'accouchement. Nous enregistrons beaucoup d'enfants de mort-née ou qui décèdent quelques heures après vraiment leur accouchement. La prématurité, les infections respiratoires aiguës, plus particulièrement la pneumonie, le paludisme, et les diarrhées.
Ces causes multiples témoignent d'une réalité complexe où les déterminants sanitaires s'entremêlent aux réalités socio-économiques, culturelles et même climatiques.
Petit escargot porte sur son...
Connaissez-vous les 28 jours après l'accouchement? Pour Mme Cissé Maria Mangoiba, sage-femme, la période néonatale, c'est-à-dire les 28 premiers jours, est la phase où la vie d'un nouveau-né est la plus menacée. Elle explique que l'adaptation à la vie extra-utérine est un processus fragile, risque de refroidissement, de troubles respiratoires, mais aussi d'infections sévères. Ces infections sont souvent liées à des pratiques familiales répandues, mauvais entretien du cordon, recours aux bains de qualité, environnement peu hygiénique ou bains trop fréquents qui favorisent l'hypothermie.
Le refroidissement, c'est le problème de la respiration. C'est ça qui tue généralement nos bébés. Ils viennent avec des respirations mélangées, difficiles. Notre environnement, le plus souvent, n'est pas sain. Il y a trop de gens, tout le monde veut voir les bébés, tout le monde prend les bébés, on rit sur eux, on tousse. C'est pour infecter les bébés. Les cordons sont mal entretenus à la maison. Nous, on attache les cordons, on clampe les cordons, on met de l'alcool et à la maison, ils arrivent seulement, ils mettent plus de l'alcool et vont mettre le beurre de karité. Beaucoup de mères nous reviennent avec des cordons très infectés, imbibés de beurre de karité. Et ces enfants, généralement, ont une fièvre, une très forte fièvre.
Madame Cissé insiste, une simple erreur dans les premiers soins peut basculer dans une complication grave, d'où l'importance d'une hygiène rigoureuse et d'un accompagnement rapproché des familles. Des soins sont essentiels à la naissance d'un enfant. Dès la naissance, plusieurs gestes sont déterminants. Chercher immédiatement le bébé, couvrir la tête et les extrémités, initier l'allaitement maternel dans les toutes premières minutes, parfois avant même la coupure du cordon, administrer la vitamine K1 pour prévenir les hémorragies. Avant le retour à domicile, les mères reçoivent généralement des conseils sur l'hygiène du nouveau-né, l'allaitement, l'importance du lait maternel et la nécessité de consultations régulières, nous dit Mme Cissé Maria Mangoiba, sage-femme.
Normalement, dès la naissance, on doit vacciner l'enfant. Comme on n'a pas les vaccins sous la main toujours, donc on dit aux parents d'amener les enfants après le baptême. Donc ça, c'est le 7e, 8e jour de la naissance que l'enfant est vacciné. En plus de la vaccination, l'enfant doit être consulté et pesé. Normalement, c'est ça qu'on doit faire. Maintenant, on ne le fait pas trop au Mali. Sinon, avant, c'était comme ça. On doit voir les enfants, peser les enfants pour faire la courbe du poids. Et si on fait la courbe du poids pour voir chaque Moi, quel gramme, quel poids l'enfant a pris pour voir l'évolution de l'enfant. L'enfant a diminué de poids, l'enfant ou bien l'enfant reste stationnaire, donc on cherche la cause. En ce moment, de l'enfant sain, on peut référer l'enfant chez un pédiatre.
Sur ce point, la sage-femme est catégorique. Rien n'égale l'allaitement maternel. Le colostrum représente la première immunisation naturelle du bébé. Il protège, nourrit, renforce et réduit les risques de maladies. À l'inverse, les biberons mal entretenus peuvent devenir de véritables nids à microbes, soutient la sage-femme.
L'enfant naît toujours là, il faut essuyer rapidement la tête, surtout la tête, les pieds, couvrir bien l'enfant et le mettre au sein avant même de couper le cordon. Après la section, mettre les bonnets et les chaussettes. Administrer la vitamine K1, ça fait partie de nos premiers soins. Directement après l'accouchement, on introduit ça. Après, on donne les conseils à la maman sur l'hygiène du bébé, l'allaitement, l'importance de l'allaitement maternel. L'importance du lait maternel, l'allaitement augmente considérablement la survie de l'enfant, car rien ne peut remplacer le lait maternel. Il y a moins d'infections, qui est la principale cause des décès. Ça diminue les troubles digestifs. Malgré tout, on a des problèmes. Hein.
Mon petit lapin s'est caché dans le jardin.
Les pratiques sociales autour du nouveau-né sont fortement ancrées. Le sociologue Dr Anicité Alamangingai met en lumière une réalité souvent sous-estimée. Les mariages précoces et les grossesses avant l'âge adulte fragilisent profondément la mère et l'enfant. Une jeune fille, encore en construction physique, émotionnelle et sociale, se retrouve propulsée dans un rôle maternel pour lequel elle n'est pas préparée. Résultat, manque de connaissances, recours à des pratiques non médicalisées, dépendance familiale et vulnérabilité accrue du nouveau-né.
Qu'il s'agisse de mariage précoce ou de grossesse précoce, on a affaire à une femme qui est limitée sociologiquement et biologiquement. Du point de vue culturel, elle n'est pas suffisamment apprêtée pour faire face à la gestion de foyer, pour faire face à l'organisation de la vie d'autres humains entre ses mains. Et sur le plan biologique aussi, la préparation physique manque. La personne n'est pas apte à faire face à la situation de grossesse, alors même que il n'arrive pas à maîtriser d'abord son corps ou à dompter son corps, quitte à associer cela à la prise en charge d'un autre corps. Vous voyez que ça fait un double rôle. Justement, ces deux aspects impactent négativement sur la survie de l'enfant. Ça augmente la chance pour l'enfant de mourir.
Sur le plan social et émotionnel, le sociologue Dr Anicité rappelle que les violences domestiques fragilisent aussi les enfants, augmentant le stress, perturbant la construction affective et à long terme exposant à des comportements violents.
Les violences familiales ou domestiques créent un environnement de vie qui n'est pas apaisant pour le bien-être psychologique et social de l'enfant. Sur le plan psychologique, ça tapoge entre deux aspects fondamentaux, l'aspect affectif et l'aspect social. L'aspect affectif, c'est que voilà, on a deux parents pour lesquels l'enfant a de l'affection qui se mettent en position antagoniste. Donc, ça crée un embarras de choix pour l'enfant d'être avec tel ou tel autre parent, considérant que le choc qui a sorti de cette violence-là est directement reçu par l'enfant comme un marqueur indélébile. Donc, même quand il va grandir, cela restera avec lui. Ça peut créer un état de manque de confiance, mais ça peut aussi, sur le plan social, motiver ses choix.
Les consultations prénatales, un pilier fondamental. Pour Mme Cissé Maria Mangoyba, la consultation prénatale, la CPN, est un pilier incontournable. Elle permet de dépister les maladies maternelles, de détecter les malformations et les complications, de prévenir les infections, de réduire les risques d'avortement ou d'accouchement prématuré, de préparer la voie d'accouchement, d'assurer la prévention du paludisme, de l'anémie et des parasitoses, d'administrer la vaccination antitétanique. Elle rappelle que ce suivi doit se poursuivre 72 heures après l'accouchement, puis à 45 jours.
La consultation prénatale, là, ça permet de détecter beaucoup de choses. Détecter les maladies chez la mère, détecter les maladies, les malformations chez le bébé, ça protège l'enfant. Et détecter les anomalies mère-enfant, ça diminue les avortements, la consultation prénatale, ça diminue les accouchements prématurés, diminue les infections. Et ça nous permet de prendre des décisions de la voie d'accouchement. La consultation postnatale chez nous, c'est très important aussi. Après l'accouchement, on surveille bien la femme. Normalement, ce qu'on doit faire, on surveille la femme jusqu'à 24 heures. Les constantes, la tension. pression, la température, le saignement, c'est ça qu'on appelle les logis maintenant. Après l'accouchement, c'est les logis. On regarde si elle ne saigne pas. On regarde son état psychologique. Il faut continuer à voir si l'enfant tire les seins.
Mon petit lapin s'est caché.
Les maladies et risques courants chez les enfants de 0 à 5 ans. Selon Dr Oumar Diallo, pédiatre, deux groupes de risques dominent. Il s'agit de facteurs environnementaux, accidents domestiques, hygiène, insalubrité et les maladies infectieuses, parmi lesquelles on peut citer pneumonie, diarrhée, paludisme, infection respiratoire aiguë.
Les principaux dangers qui menacent la survie de l'enfant de 0 à 5 ans sont dus principalement à deux facteurs. En premier, nous avons les facteurs environnementaux, qu'ils soient dans nos agglomérations ou dans les milieux urbains, les enfants sont exposés à des risques, des accidents, notamment des accidents de brûlure, de noyade, les intoxications ou les accidents des voies publiques. Et deuxième facteur sont des facteurs liés à la maladie, qui elle-même découle le plus souvent du milieu dans lequel vit l'enfant.
Les signes de gravité précoce du paludisme reviennent déjà à reconnaître les premiers signes de forme grave du paludisme, qui sont les convulsions, la perte de connaissance, une prostration, un ictère intense, une hémoglobinurie pour lesquelles il faut consulter.
Le docteur Émile Samaké, médecin généraliste, renchérit. La prévention, la vaccination, la nutrition adéquate et les bonnes pratiques d'allaitement sont les clés les plus simples et les plus rentables pour sauver des vies.
Lorsque l'enfant ne peut plus téter ni boire ou de manger, quand l'enfant vomit, présente des états de somnolence inhabituels devant des cris plaintifs, lorsque l'enfant respire difficilement ou une respiration rapide, lorsque l'enfant fait des fréquentes ou devant des cas de diarrhée de plus de 3 selles par jour. La vaccination est essentielle pour la survie de l'enfant car ça lui protège contre les maladies comme la rougeole, le tétanos, la tuberculose, la coqueluche, la poliomyélite, la méningite, donnant à l'enfant une immunité post-vaccinale qui protégera l'enfant de contracter ou de faire la forme grave de ces pathologies précitées.
Les petits poissons.
Quelques solutions en cours. Madame Fatouma Tsadiara, mère d'un jeune enfant, partage son expérience. Si sa grossesse s'est déroulée dans de bonnes conditions, elle souhaiterait une plus grande accessibilité financière aux services et davantage d'écoute de la part du personnel de santé.
Mon bébé a immédiatement reçu les premiers soins nécessaires. Maintien au chaud, mise précoce au sein, nettoyage, vérification des voies respiratoires, administration de la vitamine K et premier examen médical. Cette prise en charge rapide et rassurante m'a beaucoup confortée. Cependant, certaines difficultés ont été rencontrées. La distance importante entre notre domicile et le centre de santé. Le coût du transport ainsi que celui de certains médicaments. Les longues files d'attente avant d'être consultées.
Son témoignage traduit une demande croissante. Des soins plus humanisés, plus proches des familles et financièrement supportables. Face à ces défis, l'ONACER déploie plusieurs stratégies. Selon Dr Ndi Keita, plusieurs programmes nationaux sont mis en œuvre pour renforcer la survie de l'enfant, améliorer la qualité des soins, professionnaliser les accouchements et assurer une plus grande équité dans l'accès aux services.
Le PRODES 4 inscrit vraiment la survie de l'enfant. Le plan stratégique santé de la mère, de l'enfant, du nouveau-né de l'enfant et la nutrition qu'on appelle couramment SMNUT 2026-2030, élaboré en son sein un plan d'accélération de la survie de l'enfant. Le plan stratégique national de lutte contre le paludisme aussi est un élément essentiel. Le plan de sécurisation des produits de santé de la reproduction. Sans médicaments, on ne parle pas de santé. Donc, nous avons élaboré un plan de la période 2024-2028. Également, le plan national budgétisé.
Et malgré les difficultés, les progrès sont bien réels. La couverture vaccinale contre la rougeole est passée de 34% en 2020 à 42% en 2024. Les consultations postnatales ont atteint 56,6%, un bond significatif. Pour poursuivre cette dynamique, l'ONACER lance un plan d'accélération 2025-2027 avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Un plan qui vise à harmoniser les interventions, renforcer la collaboration entre familles, agents de santé et collectivités et bâtir un système plus résilient.
Il faut noter pratiquement le renforcement de la prise en charge des enfants nés de mères survivantes positives, l'organisation des interventions spécifiques
L'endroit des enfants dans les sites déplacés, l'amélioration nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans, le renforcement du dépistage et la prise en charge communautaire, vraiment de la malnutrition aiguë. La prise en charge vraiment de l'hypoxie dans 100% des établissements sanitaires de référence et 50% des établissements de première ligne. Cependant, il existe quelques obstacles pour mener à bien ce programme. On peut citer entre autres le financement insuffisant dans le compte national de la santé, la fragilité des mécanismes de solidarité mis en place par soit le RAMED ou les mutuelles de santé qui restent faibles également, la faible mobilisation des ressources internes de l'État et des collectivités.
La survie et le bien-être des enfants maliens dépendent d'une mobilisation collective, des institutions, des familles, des professionnels de santé, mais aussi de toute la société. Les défis sont nombreux, mais les solutions existent. Et chaque progrès, même minime, représente une vie sauvée.